Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de Folia Liga. Au programme ce soir, une grande dose de liste des 23 de Lopetegui, un trait de Segunda et une larme d'Iniesta, Torres et Xavi Prieto. Ce soir, la joueuse bande entre dans la convocation. Plus habile que Valère Germain, c'est notre naïf et dégénéré préféré, Benjamin Brouchet. Bonsoir.
Bonsoir.
Petite dédicace.
Oui, toujours.
En passant. Elle sèche encore ses larmes après les adieux de Don Andrés, celui de Larque Vasquez. Bonsoir.
Bonsoir.
On va attaquer tout de suite avec la liste de Lopetegui, faite à 13h dans le cadre idyllique du siège de Telefonica à Madrid. Je ne sais pas ce qui est le mieux entre la liste de Deschamps à TF1 ou Lopetegui. C'était fait en plus dans un minimalisme. Il est arrivé, il a fait voilà, ma liste des 23, il n'y a même plus de PowerPoint. Toi, le président de l'OM, tu vois, il aurait fait un PowerPoint. Bref. Une seule surprise dans cette liste, Montréal, d'Arsenal, qui a été privilégié, notamment par rapport à, c'est pas le même poste, mais c'est encore plus surprenant, vu la polyvalence de Azpilicueta, c'est la non-présence de Bartra. Qu'est-ce que vous pensez globalement de cette liste et justement de ce choix d'avoir pris, évidemment, c'est un choix très à la marge, d'un latéral remplaçant, mais est-ce que vous êtes content de ce qu'a proposé Lopetegui, à savoir aussi ne partir qu'avec trois attaquants et ne pas prendre Morata?
Alors je vais commencer pour Montréal, c'est vraiment le choix à la marge où c'est un peu le gars là où on aurait pu mettre un peu tout le monde, on aurait pu mettre un Bartra, on aurait pu mettre un Sergio Roberto, on aurait pu mettre un Azpilicueta. Voilà, Montréal, il a un peu le gaz de l'ancienneté, c'est un gars qui est là depuis très longtemps, qui est habitué au groupe. Il sait qu'il va faire de vagues, qu'il va accepter son statut de remplaçant et qu'il va même pas, peut-être pas jouer une minute ou très peu pendant cette compétition. Donc vraiment, c'est un choix à la marche, le seul choix on aurait pu discuter. Sinon, la compo et les 23 sont plus qu'intéressants, ils sont plus que logiques. Il n'y a pas de surprise, de toute façon, on n'avait pas à voir. Le Petit avait son 11 depuis assez longtemps, il a son groupe depuis aussi assez longtemps. Il n'y avait aucune surprise. Même l'absence de Morata, c'est une demi-surprise. Morata, ça fait bien trop longtemps qu'il n'arrive plus à enchaîner. Malgré un bon début de saison à Chelsea, c'est trop faible pour la deuxième partie de saison pour...
Non, mais Benjamin, ce n'est pas une surprise, Morata.
Je suis en train de te dire, ce n'est pas une surprise.
Ouais, honnêtement. Non, mais parce qu'en Espagne, évidemment, ça a beaucoup débattu. J'ai vu en France, les premiers titres que j'ai vus, c'est Morata n'y est pas. Mais Morata, à quel moment il y rentre? Et surtout, en plus, la comparaison est terrible avec lui et Diego Costa. Parce que fatalement, ils ont changé de club, ils ont fait une sorte de, enfin, ils se sont croisés en fait à Chelsea. Voilà, ça, la comparaison est terrible. C'est le même entraîneur, Diego Costa qui était une bestiasse, voilà. Et en plus, il a bien marché à l'Atlético, quoi. Donc, il a bien marché en sélection avec Lopetegui. Donc, Morata, il a fait l'erreur énorme de partir du Real. Et ça, tu peux rebondir dessus et Solé aussi. Mais quand on voit que Asensio et Lucas Vazquez ont accepté d'être des sorties de banc de Zidane, Morata, il doit quand même pas mal regretter son exil londonien.
Sa saison a été plus que de toute façon. Il a fait un début de saison qui pouvait présager du bon à Chelsea et après, on ne l'a plus vu. Donc, quand tu ne te montres plus, et quand il y a justement des joueurs après qui forment derrière toi, comme Costa qui quand même est arrivé à l'Atleti en montrant quand même les dents et en montrant des signes un peu plus favorables que ceux de Morata, et bien sûr qu'il est éclipsé. Pour moi, c'est logique au vu de sa saison à Chelsea qui a été plus que mi-figue, mi-raisin, qui a été vraiment, qui a été totalement éclipsé en deuxième partie de saison à Chelsea et il n'avait plus assez d'arguments à pouvoir un poste en attaque avec Lopetegui, clairement.
Le switch est quand même super particulier. Comme je l'ai dit, Costa qui part, qui a 6 mois à l'Atleti, qui est quasiment aussi long que quand il était parti. Tu as Rodrigo et Aspas qui sont fait les dents, qui se sont bien montrés lorsqu'ils ont eu leur chance avec l'équipe nationale. Et en plus, Morata, qui en plus de disparaître, n'aurait peut-être jamais dû partir du Real. Parce que même si il ne voulait pas, il pensait pouvoir prétendre à un poste de numéro 1, je pense que quand on voit la saison quand on voit la saison maintenant à l'instant T de Benzema, il aurait eu des minutes, des chances, des arguments à faire valoir et de quoi se montrer à Lopetegui. Et il a voulu en partant et en s'émancipant pour devenir numéro 1. Et on voit qu'il a il n'a pas les épaules. Après, je pense qu'il y a des soucis, je crois qu'il y a des soucis extra sportifs, la perte d'un ami proche qui l'a mis un peu dans le fond du seau. Mais voilà, sa non-présence n'est pas une surprise. Et je pense que ça n'aurait pas le rendre à lui, à la sélection, de le prendre. Parce qu'il n'a pas le niveau, il n'est pas assez intéressant pour actuellement, il n'est pas dans une bonne forme pour prétendre à être un mondialiste. Quand tu prends 23 joueurs, tu prends 23 joueurs qui doivent t'apporter quelque chose, tu ne prends pas des noms. Donc Morata, il n'a aucunement sa place à cet instant T dans la sélection de Lopetegui.
Oui, d'ailleurs, Azpilicueta est un miraculé à Chelsea parce que ni Marcos Alonso, ni Fabregas, ni Pedro ne sont dans la liste. Mmh. Voilà, ça fait des grands problèmes. On pourrait même s'amuser à faire une deuxième liste des 23 à tous les absents potentiels. Qui aurait pas mal d'allure. Voilà, après, il y a aussi des joueurs qui ont quand même fait des choix très étranges et qui le payent. Je pense notamment à Paco Alcácer, alors qu'il n'était déjà pas présent, alors qu'il était le meilleur buteur dans la phase qualificative de l'Euro et qui n'était pas présent à la compétition. Mmh. Et surtout, Vitolo Maché, qui lui avait été sur une autoroute vers la Russie et qui en une saison s'est fracassé complètement parce qu'il avait, moi je pense que clairement il avait sa place dans ces 23 là, mais entre les vacances à Las Palmas et tout, enfin ces matchs catastrophiques avec l'Atlético, bah en quelques mois il a bousillé, moi je pense qu'il a bousillé sa carrière tout simplement.
Bousillé peut-être pas, mais il prend clairement un gros
bon. Non mais dans le sens où aller au mondial c'est comme l'aboutissement d'une carrière et que il a tout, ben, pas bousillé, ouais, il a tout ruiné avec un choix qui est quand même très contestable.
Là, surtout que signé à l'Atleti en janvier après 4 mois de vacances à Las Palmas, quand on sait comment la préparation physique est ultra violente à l'Atleti et qu'il y a des joueurs qui mettent un mois et demi, 2 mois à s'en remettre. Lui, il est arrivé quasiment en n'ayant pas joué à un haut niveau et à un très bon niveau depuis 8 mois. Tu arrives à l'Athletic, tu reprends une grosse couche. Il arrive, je crois qu'il a eu 2-3 blessures, il n'était pas concerné, il n'était pas dans le rythme. Là, ses dernières sorties étaient à peine satisfaisantes sans être incroyables. Donc non, c'est vraiment un switch, un mouvement de sa part qui est vraiment surprenant. Quand on sait que c'est une année mondialiste, que l'Atleti avait été interdit de recrutement jusqu'en janvier, c'est vraiment pas le mouvement à faire à cette période-là. Il a voulu le faire. En plus, il est parti salement de Séville alors qu'il était une demi-idole là-bas et qu'il était vraiment ultra apprécié dans le club. Donc, il n'a rien fait de bien et il paye. C'est comme ça.
Hein. Oui, Solé ?
Oui, j'ai cru que vous ne m'entendiez plus. Après, pour revenir sur la liste en global et sur qui manque, qui aurait peut-être mérité, bon, même si la liste, comme l'a dit Ben avant, enfin, comme on l'a dit, il reste quand même assez logique et sans surprise. Après, au niveau du choix de Mandrea, je pense aussi qu'il y a une explication un peu tactique aussi. Mandrea défend, Alonso, on parlait beaucoup de Marco Alonso aussi, qui aurait plus mérité, ce qui est peut-être aussi le cas. Mandrea défend plus, Alonso non. Mandrea plus polyvalent, peut jouer en défense centrale aussi. Il n'y a pas besoin du profil de Marco Alonso quand on a par exemple à Jordi Alba. Y a dans la tête de Lopetegui, ça a dû aussi résonner tactique plus qu'au mérite en quelque sorte. On a entendu aussi beaucoup Sergi Roberto. Bon, s'il n'y est pas, c'est qu'il n'est pas non plus un latéral de métier. Carvajal et Odriozola, ils sont logiquement devant lui. Odriozola, bon, il n'y a pas à discuter, plus solide et efficace au poste de latéral droit. Et même si Sergi, on pouvait le voir au milieu avec toute l'armada qu'il y a, malheureusement, elle n'avait pas non plus sa place. Il oui. paye aussi un peu son manque de rigueur défensive qui ont valu aussi cette place. Après, Bartra et Gaïa, c'est toujours aussi, en termes de concurrence, c'est difficile. Notamment à gauche pour Gaïa aussi, malheureusement.
Non, Gaïa, je te coupe, non. Non, 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 Gaïa, il fait pas. Non. Pour moi, il fait une bonne saison, mais. Non. Gaïa, ça me. Non, puis en plus, il n'a jamais été pris.
Oui, donc, aussi.
Il n'a jamais été pris en sélection, donc même Marcos Alonso, il arrive très tard. Au final, il a été convoqué la dernière fois, mais c'est tout. Donc, c'était vraiment. Alors en plus, la presse l'annonçait. Marcos Alonso, c'est pour ça, c'est une surprise dans ce sens-là, je trouve, surtout.
Oui, aussi.
Parce que hier, il était dedans. Donc, c'est plutôt ça. Après, Sergi Roberto, j'allais dire, il souffre un peu de la même chose que Javi Martinez du Bayern, c'est que Lopetegui cherche plus une complémentarité centrale latérale que latérale, que défenseur, on va dire, milieu. Parce que Javi Martinez au milieu, il ne jouera pas, et en centrale, il ne jouera pas davantage. Donc, il préfère avoir un Azpilicueta qui peut même jouer dans une défense à 3, parce que c'est une défense comme ça à Chelsea. Donc, lui, Aspi, il coche toutes les cases, quoi. Donc, voilà. Et Sergi Roberto, il souffre du même problème. C'est que tu t'en fous de la complémentarité au milieu, parce qu'au milieu, t'es blindé de chez blindé. Donc, autant avoir un latéral de formation sûr, quoi, pour remplacer Jordi Alba. Puis, vraiment en 4, t'as du Nacho ou t'as de la Spinicota, quoi. C'est les deux vraiment. Voilà. Ah bon. Vous vous rappelez quand Azpilicueta disait qu'il était nul à l'OM?
Ouais.
Non, ça avait rigolé à l'époque. Hein.
Maintenant.
Enfin, là, bon, bref. On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais on va pas rappeler combien il est parti. On va pas rappeler combien les gens lui ont vomi dessus, alors qu'il suffisait juste d'aller au stade pour se rendre compte du niveau de ce garçon. Voilà. Moi, je l'ai eu devant moi pendant tout un match contre l'Inter en 8e finale de Coupe d'Europe. Bon, c'est peut-être un des meilleurs moments au stade. Impressionnant. Mais bon, voilà. Puis là, voilà, quand t'as des gens, aussi polyvalents, et même Nacho, Nacho qui fait pas de bruit, et voilà, il est toujours au Real, il est toujours présent. Dès qu'il y a un pépin, il est là, il peut jouer n'importe où. Il va pas te faire la gueule. Il est habitué à ce rôle-là en plus. C'est aussi gros avantage. Donc, honnêtement. Autant en France, on a vu pas mal de contestations sur les joueurs qui allaient, qui n'allaient pas. Autant là, Lopetegui, sa liste, elle est parfaite, quoi. Je veux dire, même Palermo, par exemple, hier, Mestalla a crié Palermo sélectionne. Palermo, comment tu enfin, il peut pas rentrer dedans, quoi. Il peut pas rentrer dans cette liste-là. Il y a beaucoup trop de monde.
C'est pas ça, parce que les deux seuls joueurs qui auraient pu être sortis pour quelqu'un d'autre. Leur présence ne fait pas tâche. Moi, c'est Montréal et Thiago que c'est pas une présence par, je vais pas dire par défaut, mais c'est un choix tactique clair de Lopetegui. Mais c'était
oui.
Moi, j'aurais pu.
Ouais, mais Thiago est bon contre l'Argentine aussi. Hein.
Ouais, mais Thiago, moi, on va pas refaire l'histoire, mais Thiago, c'était surtout un joueur qui apprécie grandement le jeune. C'était son milieu phare avec Coquet, Thiago et Saúl, je crois. En sélection avec lui 21, c'est vraiment un joueur qu'il apprécie énormément, mais moi Thiago, c'est pas un joueur qui me fait transcender. Il a beaucoup de talent, mais il n'a pas la rigueur ni ce qu'il faut pour se transcender dans un grand match. Et voilà, même sa présence que moi il ne me satisfait pas grandement, et que j'aurais préféré quelqu'un d'autre comme Rodri, qui est plus un mec qui peut faire souffler Busquets par exemple, mais sa présence, ça ne fait pas tâche. Montréal pareil. C'est des gars qui sont habitués à jouer en sélection, qui sont appréciés du groupe, qui sont, même s'ils ne sont pas transcendants, font le boulot quand tu fais appel à eux. Donc, leur présence, ça ne fait pas tâche. Donc, c'est vrai, comme tu l'as dit, en France, on a quand même plus cette manie de gueuler sur les choix et de toujours vouloir prendre son joueur de son club, machin, chose, pas la casette, Ribéry. Mais en Espagne…
Non, mais Ben, quand même, Condogbia, c'est un scandale.
Ah, oui et non.
Ah, ça veut dire celle-là.
Oui, non, mais non, celle-là, elle est vraiment scandaleuse. Mais bon, non, mais c'était pour galéger, mais oui, mais pour revenir sur Thiago, effectivement, c'est un joueur qu'apprécie beaucoup Lopetegui. Moi, je suis comme toi, je n'ai jamais été pleinement convaincu par Thiago, mais c'est comme Isco, c'est des mecs qu'il a toujours pris. Et Isco, c'est vraiment le cas typique de la fidélité de Lopetegui avec ses joueurs, et c'est aussi pour ça qu'il le suit, parce que Isco, faut quand même se rappeler qu'il y a un an et demi, il était au fond du sac.
Bonsoir.
Il jouerait plus. Ouais, tu m'entends?
Ça a bugué. Mais...
Ah ok, je reprends. Thiago et Isco, c'est les deux joueurs typiques de la fidélité de Lopetegui envers son groupe, et ce qui fait aussi que ça marche. Isco, il y a un an et demi, il était au fond du sac au Real Madrid. On savait pas s'il allait rester, s'il allait partir au mercato. Mais lui, il a toujours pris. Il a toujours. On savait même pas si Zidane allait continuer à l'aligner et tout ça. Et la sélection l'a servi de bouée de sauvetage en quelque sorte, pour devenir l'homme de base du plan B de Zidane qui a mené à la Liga, et il a même été super à Cardiff en finale, il n'a pas été mauvais. Cette année, ça a été. Son discours sont toujours très irréguliers, je trouve. Cette année, il a changé aussi sa façon de jouer au foot. Mais quand on se rappelle le match contre l'Italie où il était très bon, voilà. Donc, Thiago Isco, c'est vraiment ces joueurs-là qui l'empreinte de Lopetegui de vouloir jouer au ballon aussi. Et puis après, devant, il a le choix aussi. Il part pas avec 4 pointes parce que ça lui sert à rien, mais bon, devant, c'est la folie. Quoi. Enfin, franchement, quand on voit la compo, après une compétition, c'est long. Il y a des. On sait que l'Espagne, ces deux dernières compétitions, le mondial 2014-2016, c'était quand même. Le vestiaire a été compliqué. Il y a aussi la fin de règne de Del Bosque. Mais là, quand même, s'ils se remettent à l'endroit, ça a quand même une gueule de deuxième étoile, hein, tout ça. Hein.
Bah, l'équipe, la liste des 23, c'est rien qu'au milieu de terrain, c'est la folie. La folie. Tout ce qu'il y a à utiliser comme profil, et ça va être, à mon avis, un très bon mondial quand même pour l'Espagne, mais il y a aussi quand même beaucoup de belles équipes derrière. Après, tu parlais de l'attaque, FM. Ouais. La seule interrogation qu'il y aura, on va dire, au niveau de cette équipe qui est déjà à peu près à 11, à peu près déjà fixée, c'est quel neuf, entre guillemets, utiliser. Costa, c'est quand même la bonne option. Il est référent au-dessus de Rodrigo. Plus d'agressivité, plus de hargne, un profil qui risque d'être titulaire direct. Mais pour quand même, on l'a vu lors des matchs amicaux, Rodrigo, c'est un très très bon profil. Et qui colle même un peu beaucoup plus au style de la Roja à ce poste-là.
Ouais, mais après, Diego Costa, il a su faire son trou avec Lopetegui. C'est peut-être la première fois qu'un sélectionneur lui donnait l'opportunité de se montrer dans des conditions idoines. Parce qu'avec Del Bosque, ça passait pas bien. Il l'a pris parce que quand même, c'était ça ou le Brésil. Autant le prendre parce que ça tu récupères quand même un bon attaquant, et surtout le Brésil ne l'a pas, ce qui est quand même, parce que là le Brésil il l'aurait en pointe, ce serait quand même les ultra favoris, je pense. Déjà qu'ils sont bien, ils sont déjà bien équipés, mais vraiment Lopetegui, j'étais vraiment surpris par le niveau qu'il a pu faire atteindre Costa en sélection. Après oui, au niveau du foot, oui, en termes, on va dire, de plus de jeu qui correspond à ce que veut mettre en place Lopetegui. Oui, Rodrigo Moreno et Iago Aspas sont quand même plus dans le ton. Mais quand t'as une bête comme ça qui pèse sur ta défense, au bout d'un moment ça craque. Hein. Donc,
ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il a plusieurs profils. Il pourra changer entre les matchs. Quand tu prends Lucas Vázquez et Anciso, qui sont vraiment des joueurs qui sont de couloir, qui aiment porter le ballon, qui sont intéressants dans la provocation ou dans le dribble, avec des mecs comme Iniesta ou comme Silva qui sont plus dans la passe, dans la recherche de décalage, dans la recherche de danger, mais avec la passe, pas avec le dribble. Quand tu prends un Thiago Costa qui, comme tu l'as dit, un mec qui va au duel, qui pèse sur le défenseur, et un Rodrigo Moreno qui est plus filant, qui est plus à proposer des appels, des contre-appels, à dézoner, à bouger. Il a énormément de profils à sa disposition. Il a déjà eu en plus sous son aile et qui a pu faire jouer ensemble. Il peut vraiment proposer énormément de choses, déjà en fonction des matchs, en fonction des adversaires, ou même dans un match. On peut imaginer Costa en pointe d'entrée, Moreno qui rentre, Costa qui rentre à Aspas pour pointer tout le bordel. Il y a énormément de cartes, un Silva qui sort pour un Lucas Vázquez. Il pourra vraiment énormément changer, il pourra proposer énormément de choses dans les matchs et en fonction d'un match à l'autre pour s'adapter vraiment à l'adversaire qui manquait aux dernières sélections ou qui était rentré dans une genre de, on peut dire ça, de parodie ou de caricature de ce qu'ils faisaient. Et ils étaient vraiment, c'était difficile pour l'Espagne de varier son jeu et de changer. Là, sur cette compétition, ils ont déjà pris les claques. Donc, ils sont de retour sur terre, ils sont recontinués au travail, ils sont de retour au travail. Et en plus de ça, ils peuvent varier, ils peuvent changer. Et c'est ce qui peut vraiment faire que l'Espagne est un véritable favori. C'est ça, c'est que cette capacité à avoir différents profils, avoir un groupe soudé et capable de s'adapter, de changer, de trouver des solutions quand le petit qui va être mis en échec, il a d'autres cartes pour varier et trouver d'autres solutions. Donc c'est vraiment super intéressant.
Justement, Midou Foot nous a posé une question, donc on le salue pour sa fidélité, qui est un expert tacticien. Pour lui, le 11 est presque connu, et c'est vrai que bon, ça va surtout se décider devant, parce qu'en gros, ça va être Derrière dans les cages, Carvajal à droite, Alba à gauche, charnière Piqué Ramos, Busquets. Lui, il met Thiago, Iniesta, Isco, Silva, ce qui me semble tout à fait plausible et logique. Mmh. Mais devant, est-ce que vous mettez, est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir deux pointes pour lui, en fonction de l'organisation défensive adverse? Est-ce qu'il retire un milieu pour mettre un système un 4-4-2
Pour moi, pas d'entrée. Je vois pas l'Espagne se montrer en 4-4-2 ou que ce soit losange, que ça soit plat ou pas. Je vois en losange, mais je les vois pas se montrer d'entrée comme ça. Je vois pas débuter un match avec deux pointes. Je pense que c'est plus clair mentir. Mais je pense que Costa part avec une longueur d'avance. Je pense.
Moi je mets Moreno, mais une longueur d'avance.
Mon cœur mettrait Moreno parce que j'adore ce garçon et je le trouve excellent. Il colle vraiment à ce qu'est le numéro 9 en Espagne ces dernières années. Mais Costa, je ne sais pas, avoir une bête comme ça sur un terrain, ça peut vraiment te faire du bien. Je vois Moreno, meilleur buteur de l'Espagne sur cette compétition, à choisir. Mais je vois Costa vraiment faire un bien fou, comme il a fait actuellement avec l'Atleti, parce qu'il n'est pas buteur énormément pendant sa deuxième partie de saison à l'Atleti. Mais il est tellement intéressant dans le jeu, tellement intéressant dans les déplacements, dans les duels, dans ce qu'il amène dans le jeu. Je l'amène dans le mental. C'est vraiment une bête, c'est un monstre. Quand tu le vois en face de toi, tu as juste envie de donner le ballon et de partir en courant. Il aime le duel.
Adil Rami, mercredi, il est bien aperçu. Hein.
Mais vraiment, c'est un monstre, c'est une bête. Et vraiment, lui, je le vois titulaire. Après, ça va changer. Si on a vraiment un bloc qui est trop reculé et qui va vraiment jouer la tortue en face, je pense que Moreno va plus être intéressant parce que ces appels, contre-appels, ces mouvements vont ouvrir des brèches. Mais Costa, il est vraiment trop important et vraiment trop intéressant pour pas le voir débuter d'entrée pour moi. Même si je le redis, je préfère voir Moreno, mais dans l'esprit d'Opetegui, je pense que Costa part avec une petite longueur d'avance. Mais Moreno va avoir sa carte et je pense qu'Aspas sera le super sub à rentrer quand ça sera vraiment trop la mouise côté espagnol parce qu'il a cette capacité à mettre de la folie. Il a été excellent sur ses dernières sessions sur ses dernières sorties. Mais je pense que Costa par numéro 1, Moreno numéro 2 et Aspas numéro 3.
Et dernière possibilité, faux numéro 9. Est-ce que Solé, toi, est-ce que tu vois, comme contre l'Italie notamment, est-ce que tu penses que c'est une possibilité qui peut se répéter dans le tournoi?
Oui. Après, je suis plutôt d'accord avec Ben. Moi, je mettrais vraiment d'abord Costa pour toutes ses qualités et pour tout ce qui peut apporter, surtout en termes physiques. Après, pourquoi pas faire tout simplement faire débuter Moreno, Costa après pour justement faire craquer et Aspas pour terminer. Il faudra vraiment tout ce qu'il faut à la fin et déstabiliser complètement l'adversaire. Après, en termes de faux neuf, oui, pourquoi pas. Mais peut-être moins probable sur la compétition, je pense. Là, pour le coup, un faux neuf, oui et non.
Pour le dire, je ne pense pas que tous les clubs, tous les sections vont se présenter face à l'Espagne avec la fleur au QG, avec un 4-4-2 ou avec Marco Verratti en sentinelle. Je ne vois pas Isco réussir à faire son récital comme il a fait contre l'Espagne parce que c'était vraiment porte ouverte et porte de solo dans la défense. Donc, je vois des sélections un peu plus propres techniquement et tactiquement. Isco, faux numéro 9. Ça serait dommage, je pense, parce qu'il a tellement de cartes à proposer. Même Moreno en neuf qui propose beaucoup, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Intéressant, je vais y arriver. Je suis fatigué ce soir. Que de mettre Isco en numéro 9.
Oui, premier match contre le Portugal, d'ailleurs.
Ouais. Surtout que, comme tu l'as dit, FM, Isco a parfois même tendance à être régulier quand tu as des cartes à jouer comme Moreno et Diego Costa devant et que tu as justement le choix, on va dire, en neuf. Pourquoi te casser la tête à mettre un Isco faux neuf, sachant que parfois ça peut donner de l'irrégularité presque. Quand tu as des cartes à faire jouer comme ceux de là devant et terminer par Aspas, c'est plus logique d'en faire débuter. Hein.
Avant de terminer ce chapitre sur les 23, un mot sur le sélectionneur. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'après l'Euro, c'était une sorte de surprise quand même qu'il soit nommé. Il n'avait pas sa dernière expérience sur un banc, c'était à Porto, c'était pas très très bien passé. Il avait été très bon avec les sélections de jeunes, il avait remporté des titres avec les jeunes, notamment la génération justement de Morata. Et finalement, on est passé de quand même deux compétitions particulièrement catastrophiques pour l'Espagne. Et là, en plus, il y a eu beaucoup de remous dans la sélection, à la fédération espagnole. Donc, les trois décennies de direction Villar se sont achevées. En plus, définitivement, il y a quelques jours, puisque c'est Luis Rubiales qui est l'ancien président du syndicat des joueurs qui vient d'être nommé à la Fédé. On fera des papiers là-dessus avant le mondial, à fois la Liga, parce que c'est passionnant. Des problèmes de corruption inhérents au système Angel Villar. Bon, ça, c'est le folklore espagnol, hein, on va dire. Et Lopetegui est apparu comme une solution un peu de repli, un peu par défaut. Bon, faut dire qu'il y avait Caparrós et Michel qui étaient les plus cités. Et finalement, et lui, en fait, en quelques mois, il a ressuscité le jeu espagnol. Et il n'y a aucun doute sur la possibilité qu'il puisse mener la Rioja à une deuxième étoile.
Bah, quand tu regardes bien Lopetegui, c'était un peu le choix, on va dire, aussi idéal vu le profil maintenant des joueurs qu'il y a là, qui sont des jeunes, et que lui est un entraîneur qui est porté sur la jeunesse et qui avait une vision un peu plus fraîche déjà de cette équipe d'Espagne, qui savait déjà quoi faire avec le banc. Et je pense que c'était un choix très bon à partir de là, c'est qu'il savait déjà ce qu'il allait faire avec les jeunes.
Oui, en plus, il avait l'avantage d'être apprécié des deux camps rivaux, Barça et Real.
C'est ça.
Donc, c'était une sorte de point ultra positif, parce qu'on sait que ça se regarde des fois un peu en chaîne faïence et que ça avait été un problème dans le vestiaire en 2014 et 2016. C'était forcément, ils ont cherché un peu la paix du vestiaire pour retrouver
un équilibre.
Pour retrouver leur équilibre et leur force, parce que c'était quand même les deux, le groupe qu'ils avaient à la Coupe du Monde, enfin, c'était aberrant. La rousse qu'ils avaient pris contre les Pays-Bas, qui à l'Euro contre l'Italie, ils n'avaient pas touché une canette, quoi. Donc, c'était impératif d'avoir quelqu'un qui redonne cet élan à la sélection. Et en plus, quand on regarde vraiment la composition de ces 23, c'est pas non plus ultra, il n'y a pas une ultra domination des deux principaux clubs, quoi. Yeah. C'est-à-dire qu'il y a Kepa de l'Athletic, il y a un gars de la Real Sociedad, il y a un joueur de Valencia, il y a des joueurs de l'Atlético, il y a un gars du Celta. Donc voilà, c'est quand même assez mélangé, cette histoire.
Bah, je vais revenir sur moi, je pense. Mais donc, comme tu l'as dit, il avait ce profil un peu plus lisse, moins marqué, il faisait pas de renoux, c'est pas un mec qui bouge, qui parle beaucoup, qui gesticule. Un Caparrós ou un Michel, ça aurait été un peu plus compliqué à gérer parce que c'est des sorties. Parce que c'est des paroles, parce que c'est plein de choses. Là, avec lui, c'était le choix de raison. Peut-être pas le choix le moins vendeur, mais le choix de raison. Et on l'a vu, ça marche bien. Et en plus de ça, il a su instaurer cette logique de groupe qu'on a parlé avec Isco, à le prendre même quand il était au fond du sac. Et c'est ce qui fait que le groupe de maintenant est soudé et peut faire quelque chose de beau, parce que voilà, il se connaît depuis assez longtemps, il se fait confiance. Donc c'est vraiment intéressant et ça peut faire des choses.
Mais là où quand tu parles de discrétion, tu as tout à fait raison, parce que en Espagne, il y a eu beaucoup d'articles, de déclarations de Joaquín Caparrós et de Michel González qui étaient très très chauds. Ils ont beaucoup trop parlé, à tel point que la Fédé leur a demandé d'arrêter. Et Lopetegui qui était resté vraiment dans l'ombre, c'est-à-dire vraiment je ne me rappelle même pas que le nom est fuité, tu vois. Et finalement, c'est lui qui est sorti du chapeau, parce que je pense que bon, déjà, il connaissait très bien les installations de la Sassas. Je pense qu'il avait suffisamment de réseau pour il n'avait pas besoin de s'agiter. Mais vraiment, il a eu l'intelligence de ne pas se déclarer candidat et de ne pas faire 150 interviews. Et je pense que ça coûtait cher à Caparrós, à Michel, qui en plus, eux, non. Leurs dernières expériences sur les bancs n'étaient quand même pas une folie. Ça n'avait pas été transcendant, quoi.
Oui, tu as peut-être raison sur ce point-là. Après, est-ce que si justement le CV de Lopetegui n'a pas joué, entraîneur des moins de 19, des moins de 20, il avait déjà un peu plus cette touch aujourd'hui que les deux autres.
Je
pense.
Oui, puis sélectionneur, c'est un boulot différent d'entraîneur. Entraîneur, ça s'est mal passé pour lui. Peut-être que, oui, faire ce job-là est quand même. Enfin, il est plus coutumier de ce travail-là, quoi. Et forcément, ça a été. Ça se ressent, quoi.
Et il l'a joué du coup finement. Barre aux deux autres qui ont essayé peut-être de combler en se montrant plus motivés, voire même trop.
Tout à fait. Bon, après, il y avait aussi tous les entraîneurs espagnols qui étaient cotés, qui étaient pris. Et Guardiola, ça me semble assez hypothétique qu'il devienne sélectionneur de l'Espagne.